Eh bien, bonjour à chacun, à chacune. C'est une joie d'être parmi vous. J'ai l'impression d'être à la maison. De plus en plus, j'ai avoir des racines qui vont pousser. Hein. Est-ce que je peux vous demander de faire quelque chose de symbolique, mais de très important? Je peux me permettre? Là, je vois, vous êtes complètement éparpillés, là, assis comme ça. Et vous savez que l'Église, elle fonctionne dans le tous ensemble. Est-ce que je peux vous demander de vous resserrer, d'avancer et de vous mettre ensemble, de vous asseoir ensemble, comme une détermination, une volonté de pouvoir travailler ensemble, qu'il n'y ait pas de creux, qu'il n'y ait pas de vide, que vous soyez ensemble comme un corps qui fonctionne. Heureusement que je n'ai pas mon bras d'un côté, ma jambe de l'autre et ma tête ailleurs. Ensemble. Voilà. Serrez-vous ensemble. Hein, en vous serrant, dire, Seigneur, moi je veux absolument qu'on travaille ensemble. Hein, il y a une force dans l'ensemble. Vous savez que je travaille depuis 24 ans en Afrique. Mais jamais j'aurais rien pu faire en Afrique si nous n'avions pas été ensemble. Hein. L'Église, si elle n'avait pas été ensemble, je n'aurais jamais rien pu faire en Afrique de ce qu'on a fait depuis 24 ans. La force, elle est dans le ensemble. J'ai vraiment eu à cœur de vous demander ça comme une position que vous prenez. Pourquoi? Parce que l'Église est le seul espoir pour le monde. Écoutez, mes bien-aimés. L'Église est le seul espoir pour le monde. Dites pas Amen, hein? Dites pas Amen. L'Église est le seul espoir pour le monde. Nous sommes dans un monde qui se perd. Nous sommes dans un monde qui marche à l'envers. Nous sommes dans un monde qui court vers sa destruction finale. Il faut que nous puissions regarder le monde avec les yeux de Dieu, mes bien-aimés. Comme Jésus qui pleurait sur Jérusalem. Nous devons regarder ce monde avec ses yeux à lui pour susciter une profonde compassion et dire que nous avons la joie de connaître Jésus. Nous avons la joie qu'il nous ait dit « Je te pardonne de tous tes péchés ». Nous avons la joie d'avoir une certitude de la vie éternelle. Nous avons la joie de ce que nous avons un Père qui veille sur nous au quotidien. Et le monde. Ce monde où Dieu l'a tellement aimé. Il a donné Jésus pour le monde. Et c'est à partir du monde que l'Église naît, mais le reste... Vous êtes l'espérance, écoutez mes bien-aimés, vous êtes l'espérance pour tous ceux que vous allez côtoyer. Le monde n'a pas d'autre espérance. Il faut que vous réalisiez ça. Le monde n'a pas d'autre espérance. Les choses de l'Église sont des choses sérieuses. C'est une question de vie ou de mort. Les gens s'en vont droit en enfer. Et j'aimerais vous partager... quelque chose d'important sur la façon dont j'écoute Dieu, parce que tout part de là. La façon dont j'écoute Dieu. Avant que je commence, parce que je n'ai pas commencé, j'aimerais qu'on puisse vraiment s'incliner devant la souveraineté de celui qui nous a tellement aimés. Père, nous sommes tellement reconnaissants. Est-ce que tu n'as pas regardé à ce que nous étions ou ce que nous n'étions pas? Mais tu as regardé à ton cœur, à ton amour, pour venir jusqu'à nous, te frayer un chemin dans nos cœurs tellement endurcis, tellement rebelles, tellement pécheurs. Tu as réussi à te frayer un chemin dans nos vies. Jamais nous n'aurons assez de temps pour te remercier. Viens. Impose-toi, Seigneur, nous t'invitons pleinement. Descends dans ces lieux. au nom de Jésus. Amen. Nous avons fêté il y a 8 jours la résurrection de Jésus. Il faut que nous, en tant que chrétiens, nous puissions réaliser que nous avons le plus beau, le plus grand de tous les messages au monde. Il n'y a pas de plus grand message au monde que cette espérance que Dieu fait naître dans notre cœur lorsque nous réalisons que Jésus, Dieu venu en chair, a triomphé de la mort en sortant vivant des tombeaux. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous avons le plus grand, le plus puissant de tous les messages. Et pourtant, l'Église a peu d'impact. Et pourtant, les gens continuent à courir dans le péché. Et pourtant, l'Église a du mal à transmettre ce plus beau de tous les messages. L'Église est en difficulté. L'Église a du mal à transmettre ce message au monde qui en a tellement besoin. Moi, je sors d'un milieu complètement opposé à Dieu, et quand j'ai eu la révélation de Jésus, mon cœur a été bouleversé de réaliser la personne que j'avais rejetée, la personne que je ne voulais pas dans ma vie. J'ai réalisé son amour, sa grâce, sa patience, sa fidélité. Ça fait une révolution dans mon cœur. Et jusqu'à mon dernier souffle, je veux proclamer la puissance de l'Évangile, la puissance de la résurrection de Jésus, dont j'avais tellement besoin, si je ne l'avais pas connu, mais où je serais aujourd'hui? Où seriez-vous sans pardon de péché, sans rien? Où serions-nous? Il faut que la réponse à cet amour soit notre vie sur l'autel pleinement. Alors ce matin, je peux, avant de lire la parole, simplement poser la question, mais pourquoi tu viens à l'Église? Pourquoi viens-tu à l'Église? Pourquoi, malgré les difficultés, tu continues à venir? Est-ce que tu viens à l'Église simplement parce qu'il faut accomplir ton devoir dominical le dimanche? On est chrétien, c'est normal qu'on loue Dieu, c'est normal qu'on chante, c'est normal qu'on écoute la Bible. Et après, pourquoi viens-tu vraiment à l'Église? Quelle est la raison, quelle est la motivation profonde pour laquelle tu viens à l'Église? Et nous devons se poser profondément cette question. Et déjà, je vous ai donné la réponse tout à l'heure en vous disant que l'Église biblique est la seule espérance pour le monde. Quand je viens à l'Église, j'ai besoin de réaliser que nous avons tous, et même les jeunes enfants, je vois un jeune enfant qui est là, besoin de réaliser, même Dieu veut utiliser les enfants. Vraiment. Oui, c'est vrai. Dieu veut utiliser les enfants. On le voit dans la Bible. Hein. Je suis sûr que Michel a dû parler aussi des enfants qui ont été utilisés dans la Bible. C'est certain. Il parle du personnage biblique. Je suis sûr que tu as parlé de ça. Hein. Vous voyez, même les enfants, Dieu, il faut que vous soyez très attentifs, surtout à l'époque où nous vivons, parce que les temps sont en train de se resserrer. Il est encore temps que nous puissions nous lever comme une seule armée devant Dieu. C'est pour ça que je vous ai demandé comment on rassemble les troupes. Vous voyez, pour ça que je vous ai demandé, faut pas accepter que nous soyons séparés. Alors bien sûr, ça c'est symbolique, mais dans l'espace de notre vie, nous devons avoir un réseau de communication ensemble, d'intérêts, de buts communs, pour ensemble apporter tout ce qu'on est devant Dieu pour dire comment maintenant on peut être efficace pour répandre ce merveilleux message de l'Évangile. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler sur la différence entre écouter et entendre. Et le titre de mon message, c'est « Écouter comme un disciple ». Écouter comme un disciple. On va commencer par lire Marc 12, versets 28 à 29. qui nous dit « L'un des scribes qui, ayant entendu leur discussion, avait reconnu qu'il avait bien répliqué, s'approcha et lui demanda « Quel est le commandement ? Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répliqua. C'est Jésus qui donne la réponse. En général, Jésus donne toujours les bonnes réponses, non ? Jésus répliqua, le premier est « Écoute, Éternel ». Et le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Écoute. Première chose que Dieu met en avant, c'est « Écoute ». Écoute, Israël. Il ne dit pas « Entends ». Il dit « Écoute ». Est-ce que vous savez la différence entre « entendre » et « écouter » ? Des milliers de chrétiens entendent la parole de Dieu tous les dimanches. Des milliers de chrétiens entendent des exhortations, des louanges, de toutes sortes de choses. Nous entendons. Nous entendons. Mais le fait d'entendre ne suscite aucun effort et peut nous laisser simplement dans la passivité où vous mettez dans un tiroir ce que vous avez entendu. Et ça vous sert à quoi d'avoir une connaissance qui ne sert à rien ? Alors que lorsque nous écoutons, quand Dieu dit « écoute », écouter engendre une action par rapport à ce que j'ai entendu. Quand je commence par entendre, je vais écouter ce que j'ai entendu pour rentrer dans l'action et accomplir ce que Dieu me demande. Écouter me demande un effort. Écouter me demande un engagement. Écouter me demande des actions. Et quand Dieu dit le plus grand de tous les commandements, ça commence par « Écoute Israël ». Écoute Israël. Dans Ésaïe chapitre 50, verset 4, il est dit « Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée. » Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, écoutez bien ça, pour que j'écoute comme écoute un disciple. Wow. Comme j'écoute un disciple. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 1 à 7, on ne va pas tout lire, mais il y a plusieurs fois aussi l'ordonnance que Dieu rappelle au verset 3, « Tu les écoutes ». Verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel ». Et un peu plus loin, verset 7, il dit, au niveau des commandements de Dieu, « Tu les inculqueras à tes enfants ». Et en hébreu, il y a un parallèle entre le mot « enfant » et le mot « disciple ». Quand vous avez des enfants, ce sont des disciples. Les enfants vont apprendre à marcher dans les traces de vos pas. D'ailleurs, souvent on dit tel père, telle mère, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Hein, souvent, alors des fois c'est positif, des fois c'est pas forcément positif. Mais bien souvent, nous reproduisons un petit peu ce que nos parents nous ont inculqué. Dans le meilleur des choses, quand c'est positif, c'est gloire à Dieu. Mais un enfant, quelque part, c'est un disciple. C'est le disciple des parents. Donc, toi qui es jeune, écoute bien tes parents. Écoute bien tes parents. Parce que tu vas gagner du temps dans ta maturité. Ce qu'eux, ils ont appris en plusieurs années. Tu as quel âge ? 8 ans ? 12 ans. Tu as 12 ans. Toi, à 12 ans, ce que tes parents t'inculquent, t'apprennent, il leur a fallu plusieurs années peut-être pour comprendre ce qu'ils vont te dire. Et si tu écoutes, comme je dis, si tu écoutes, tu vas devenir un disciple et tu vas aller plus loin qu'eux. Tu vas grandir plus vite parce que tu vas gagner du temps et tu vas apprendre après des choses que peut-être eux n'ont pas apprises quand tu seras plus grand. C'est tout l'intérêt d'un enfant. Hello. Amen, non? Voilà. C'est très important. Hein? Mais il y a un problème. Le problème de la difficulté que nous avons à écouter, c'est que à cause du péché, nous voulons, nous, au lieu de la voix, au lieu de l'écoute, nous voulons l'image. Dans Exode 20, verset 3, hein, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face, tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel ni qui sont en bas sur la terre. » Malgré, et au verset 32, verset 1, quand Moïse avait monté sur la montagne, il était en train d'écouter Dieu pour recevoir la loi mosaïque, etc. Eh bien, pendant ce temps-là, le peuple a demandé à Aaron de se faire un veau d'or et dit « Faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, hein, que nous puissions le voir. » Vous voyez, là, nous sommes dans une confrontation de deux états d'esprit complètement différents. L'état d'esprit qui émane du péché veut le voir, le toucher, le sentir et tout ça. Et Dieu, lui, il veut parler et il veut que nous apprenions à l'écouter. Il veut le relationnel et il veut que ce relationnel, qui n'est pas forcément évident pour la chair, mais que nous puissions apprendre à le chercher. Dieu n'a pas besoin de technique et nous communiquer une technique. Il cherche une relation de cœur. Et pour que l'Église devienne une Église efficace, nous devons entrer dans ce sillon de relation de cœur et d'intimité pour que j'apprenne à l'écouter. La mission que Dieu nous a donnée pour transmettre l'Évangile à ce monde est une mission impossible tout seul. Même une âme, nous ne pouvons pas amener une âme si cette âme n'est pas attirée par le Père. Il faut que nous puissions comprendre ça, que nous n'avons pas la faculté, les capacités naturelles pour gagner le monde, comme il nous le demande. Et le fait de savoir ça, il ne faut pas que ça nous décourage, il faut que ça nous propulse, au contraire, vers celui qui va nous rendre capables. Regardez comment Dieu a rendu capable Moïse. Moïse qui avait toutes les facultés, pendant 40 ans, il était au top, il était en haut de l'échelle de la société de l'époque. Il était le fils adoptif, en fin de compte, par sa fille, le petit-fils adoptif de Pharaon. La culture, qui était la plus haute culture du monde, il était en haut de l'échelle. On pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il a à apprendre ? Il n'a rien à apprendre. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé Moïse avec tout ce qu'il connaissait là-haut ? Alors, ça c'est le principe du monde. Hein. Nous, on veut qu'on soit là pour arriver à réussir. Ça c'est le principe du monde. Mais Dieu l'a fait descendre. Et il y a eu une descente de 40 ans. Où il a appris qu'il n'était plus rien, alors qu'il était quelqu'un. Et pourquoi il y a eu cette descente de 40 ans ? Pour qu'il apprenne à écouter Dieu. 40 ans ! Désapprendre des valeurs qui étaient absolument importantes pour le monde et qui a beaucoup servi pour les civilisations de l'époque et tout ça. Mais Dieu, vous savez, il n'est pas intimidé par nos civilisations. On ne peut pas intimider Dieu en disant « moi je suis le petit-fils de Pharaon. Hein. » Hein? Nous avons affaire à Dieu, mes bien-aimés, et nous avons affaire au même Dieu que Moïse. Et nous avons aussi une mission qui est aussi impossible qu'était pour Moïse, qui est impossible aussi pour nous. Mais cette mission, elle est déjà accomplie dans la pensée de Dieu. Et dans ces temps de la fin, Dieu a besoin de toi. Il a choisi, lui il n'a pas de besoin pour lui, mais il a choisi d'avoir besoin de nous pour créer cette relation intime avec lui. Allô ? Vous êtes toujours là ? Me suivez là, hein ? Je vais vous bousculer peut-être un petit peu, mais bon. Ce que je vous dis à vous, je le dis à moi. Vous comprenez ? Je le dis aussi à moi. D'accord ? On est d'accord là. Je le dis aussi à moi. Et ce qui est important, c'est de bien comprendre que ce que Dieu il a dans l'esprit pour pouvoir nous utiliser d'une façon efficace. Pour que ta vie puisse porter du fruit. Que tu ne dises pas simplement des mots quand tu vas témoigner de Jésus, mais que dans tes mots, il y ait la puissance de l'Esprit de Dieu. Les mots ne sont pas suffisants. L'Esprit de Dieu dans les mots, oh, ça fait toute la différence. Et regardez la formation que David, Moïse a eue pendant 40 ans. À la fin de ces 40 ans, quand Dieu l'a vraiment appelé d'une façon très concrète, il avait un regard humainement juste sur lui-même, de façon, je suis capable de rien, moi. J'étais là-haut, maintenant je suis tout en bas. Et en plus, j'ai un meurtre sur la conscience. Non, mais c'est vrai. En plus, j'ai un meurtre sur la conscience. Vous comprenez le raisonnement, ce qui a dû se passer dans la tête de Moïse à ce moment-là. Mais c'est là que Dieu a commencé à l'utiliser. Quand on sait qu'on ne peut rien sans lui, c'est là qu'on va apprendre à se projeter dans ses bras et d'aller chercher les solutions dans l'intimité, comme Jésus le faisait, avec l'intensité de sa vie de prière avec son Père. Et dans cette vie de prière qu'il avait, Jésus, tout ce qu'il faisait ensuite sur le plan horizontal sur la terre, n'était que le fruit de ce qu'il avait vu faire auprès de son Père. Écoutez, mes bien-aimés, ça c'est l'Église. Nous avons la trace à travers la personne de Jésus et de ses serviteurs. Moïse, face à toutes les difficultés qu'il a rencontrées, aussi bien au moment avant la sortie d'Égypte, face à Pharaon avec ses 10 plaies, ses 10 résistances, que aussi après, pour faire marcher le peuple d'Israël pendant 40 ans, ça n'était que difficulté sur difficulté, montagne sur montagne. Et pas une seule fois, Moïse avait la prétention de savoir. Souvenez-vous aux eaux de Marat, quand un peuple a soif pendant 3 jours, ils avaient marché pendant 3 jours et tout à coup, là, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Vous avez des enfants, des femmes, tout ça, il n'y a plus d'eau en plein désert. On voit un espace où il y a de l'eau, on va boire et tout à coup, l'eau, elle est infecte, amère. Le peuple se rebelle. Et quelque part, on peut comprendre. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que la soif. Hein. Moi, j'ai connu au Mali. Hein. Je peux vous dire que vous avez votre langue qui colle au palais. C'est pas marrant, la soif, la vraie soif. Et là, Moïse, il n'avait pas de solution. Ça, moi, ça me fait du bien qu'un grand Moïse n'a pas de solution. Et il nous a laissé, par contre, le chemin pour savoir comment faire. Il alla consulter l'Éternel. Il alla dans son lieu intime avec Dieu. Il a cherché, dire, Seigneur, je t'ai obéi, mais là, ça coince. Et c'est à chaque pas qu'il a reçu, les solutions qu'il a transmises ensuite au peuple. C'est ça la victoire de Moïse. Un homme incapable qui va dans les bras du Dieu Tout-Puissant, qui lui transmet sa capacité pour retransmettre sur la terre. Hello ? Il faut que vous puissiez avoir cette vision, mes bien-aimés. Arrêtez de regarder à vous-même. Arrêtez de regarder aux difficultés, à vos différences, tout ça. Vos différences, Dieu les a voulues. Il nous a créés tous différents, on a tous un ADN différent. C'est le plan de Dieu que nous soyons différents. Mais il ne faut surtout pas que nos différences nous poussent les uns contre les autres. Au contraire, ça c'est le péché, ça. C'est pour ça qu'il y a tant de problèmes dans les églises. Vous n'êtes pas tout seul, vous savez. Hein, rien. Je ne connais pas beaucoup d'églises qui n'ont pas eu de problème. Hein. Moi, j'ai vécu deux divisions, une en 94 et une en 2012. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Hein. Vous n'êtes pas tout seul. Il ne faut surtout pas croire, dire, ben, c'est ça, il n'y a que celle-là, vaut mieux. Non, c'est partout. Mais le problème, c'est la chair. Le problème, c'est qu'on garde à nous. Le problème, on garde nos intérêts. Le problème, on garde en fonction de nous. Mais on ne va pas dans l'intimité avec Dieu. Quand je regarde dans l'intimité avec Dieu, là, je ne peux plus pointer du doigt contre l'un, contre l'autre, à cause de ceci. Non, c'est ensemble. On a une vraie intimité personnelle avec notre Dieu quand vous êtes ici, là. Waouh, ça va être un feu d'artifice. Vous allez apporter les richesses de cette intimité au sein de l'Église. Et c'est là que Dieu va commencer à œuvrer. Et quand les gens de l'extérieur vont arriver, ils ont besoin de voir une famille de Dieu. Une famille qui s'aime, une famille qui sait se pardonner. On peut s'offenser, on peut offenser même des fois la personne que j'aime le plus, comme notre épouse ou notre époux, la personne que j'aime le plus, je peux l'offenser. Même quand on ne veut pas offenser, on peut offenser. Donc il ne faut pas qu'on soit étonné de ça, mais par contre, il est important de libérer le pardon sans condition que Dieu m'a donné pour moi. Il est important de reconnaître aussi que je suis aussi un outil d'offense parfois, et je vais aussi reconnaître, m'humilier et pardonner. Demander pardon et recevoir le pardon. Si vous fonctionnez selon la première épître de Jean, chapitre 1, hein, de marcher dans la lumière et dans le pardon, il n'y a aucune limite à votre développement. Aucune. Si vous écoutez les conseils divins, il n'y a aucune limite pour avancer. Si quand on est dans la chair, on se cache de Dieu, on se cache de la présence de Dieu, ce qui est terrible, c'est comme Dieu qui a cherché Adam. Adam, où es-tu ? Et moi, je voudrais peut-être vous dire, où en es-tu ? Où es-tu ce matin ? Est-ce que tu es caché derrière ton fonctionnement, caché derrière tes références, caché derrière peut-être tes péchés, caché derrière des tas de choses ? Où es-tu ? Pour que Dieu cherche Adam, c'est qu'Adam n'était pas dans la présence de Dieu. Si Dieu te cherche, c'est que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Dieu, normalement, n'a pas à nous chercher. C'est plutôt à moi de le chercher. Parce que, justement, on est ici-bas sur la terre, c'est à moi de le chercher. C'est pas à Dieu de me chercher. Mais Dieu a dit, mais Adam, où es-tu ? Et nous savons dans le texte de la parole, dans Genèse, que Adam, lui, il s'est caché. Il s'est caché. Et se cacher de Dieu, c'est se cacher de la solution. Parce que c'est lui la solution, vous comprenez ? Si je me cache, si j'ai peur de la lumière, j'ai peur de la transparence, j'ai peur de tout ça, ben, quelle solution tu vas avoir face à ta vie ? Que ce soit ta vie personnelle ou ta vie collective. Quelle solution, alors que tu es l'Église, censée être porteuse de le plus grand message de tous les siècles. Jésus-Christ sortant vivant, trois jours au tombeau, il sort vivant. Et il est vivant au siècle des siècles. Il faut que nous puissions changer notre façon de voir, notre façon d'appréhender les choses. Il faut que j'écoute absolument la personne de Dieu. Dans Hébreux 4, 7, il dit « Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. » Je paraphrasais un petit peu ce texte en disant, je vais modifier un petit peu en disant « Aujourd'hui, si tu entends sa voix, écoute, au lieu de dire « N'endurcis pas ton cœur. » Si tu entends sa voix, si tu l'entends, si ça résonne, ça résonne de Dieu, ça résonne avec la parole, ça résonne avec ta conscience. Si tu entends, écoute, rentre dans la réflexion, dire maintenant, voilà, je sais où est la direction, je sais comment Dieu veut que je pense, comment Dieu veut que j'oriente ma vie. Est-ce que je vais écouter ou est-ce que je vais, si je n'écoute pas, il va y avoir un endurcissement qui va s'opérer dans mon cœur. Et vous savez, plus une chose est dure, plus c'est difficile ensuite de la briser. plus mon cœur est endurci, plus c'est difficile de briser. Il y a des fois des drames, parfois même parmi les chrétiens. Et parfois ces drames, ils sont salutaires. Malheureusement, parfois on utilise Jésus comme une roue de secours. Je voudrais dire, vaut mieux encore qu'il soit une roue de secours que qu'il n'y ait rien du tout. Parce qu'au moins, ça nous dépanne bien. Et ça peut nous permettre de nous remettre sur les rails. Une roue de secours, vous comprenez ça? Où es-tu, mon fils, ma fille? Où es-tu? Dieu te cherche. Dieu te veut pour lui. Si tu es reconnaissant pour le pardon de tes péchés, pour la vie éternelle qu'il te donne, pour sa présence au quotidien, pour les dons du Saint-Esprit, si ton cœur est reconnaissant, réponds-lui en lui consacrant toute ta vie. Ma vie doit être mise sur l'autel. N'endurcis pas ton cœur. La Bible nous dit dans Romains 1, verset 21 jusqu'à 23. Bon, je veux juste vous lire le verset 23 où Dieu parle de, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image. Ils ont changé la gloire de Dieu en image. Et là, on revoit la même pensée qu'au temps de l'Exode, où le peuple voulait une image. Il voulait avoir un Dieu qui se voit. Il voulait voir un Dieu qu'on puisse toucher. Il voulait, en fin de compte, avoir un Dieu concrétisé en image. Et dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Hein, où Dieu dit, mais ils sont inexcusables. Hein, ils ont connu Dieu, mais ils ont tout lâché. Dieu se manifeste, même ne serait-ce qu'à côté de par rapport à la beauté de la nature. Si j'observe la nature, si j'observe le végétal, le monde animal, etc., si j'observe toute la nature, comme disait Voltaire, s'il y a une horloge, il y a un horloger quelque part. S'il y a une nature telle qu'elle est, il y a forcément un créateur, quelqu'un qui a pensé. Observe simplement ton corps, ou notre corps est quelque chose de prodigieux. C'est prodigieux un corps humain. Et que Dieu assemble un homme et une femme pour se marier, et ensuite le fruit de leur amour va donner un enfant, un futur disciple, où il y a les deux personnes dans la personne tout en étant unique. Pour avoir pensé ça, il faut être Dieu. Ça ne peut pas se faire comme ça. L'amour des deux va se concrétiser dans un enfant. Mais il faut être Dieu pour penser comme ça. On a toute la démonstration partout du Créateur et de l'amour que Dieu a pour nous donner le meilleur sur cette terre. Et on ne va pas réagir. On va vouloir encore un Dieu à part image. Nous sommes vraiment dans cette époque de l'image. Mais écoutez, mes bien-aimés, l'image nous trompe. Le problème de l'image, c'est que nous regardons et du coup, nous n'écoutons plus. L'image pense pour nous. L'image choisit pour nous. L'image décide pour nous. Et quelque part, l'image devient Dieu. C'est un petit peu comme dans l'Apocalypse 13, verset 15, quand il dit « Il fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît tout ce qui n'adorait pas l'image de la bête fût tué. » Il y a aujourd'hui, hier j'étais à un séminaire sur le problème de la pornographie dans le monde, qui est un problème énorme, même dans les milieux chrétiens. Et les enfants à bas âge, dès l'âge de 10 ans, 11 ans, c'est un problème. À cause de l'image aussi, encore l'image. Déjà, la télévision a apporté un bouleversement. Il y a tout le côté positif, c'est vrai. Mais il y a le revers de la médaille. Mais en plus, maintenant, on a tous une télévision dans notre poche. C'est multiplié par X. Combien de jeunes sont liés par l'image, par la pornographie. Ils sont bousculés et ça détruit des vies entières. Et nous, on va suivre Dieu aussi de la même manière. Ah non. Dieu, même s'il permet l'image, mais il veut que nous puissions le suivre à l'écoute. Il veut, c'est le Dieu qui parle. Quand Dieu a créé tout l'univers, il parla. Il libère la parole. Et la parole, elle a créé. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance de création. Comme dans un ordre que Dieu vous donne, il y a la puissance de la grâce de Dieu dans l'ordre qu'il vous donne. Ce qu'il vous ordonne, il le donne. Et lorsqu'il nous ordonne, allez, faites de toutes les nations des disciples, ne cherche pas si tu as la capacité. En lui, tu as la capacité. En lui, tu peux. Lorsque Dieu m'a envoyé en Afrique, mes bien-aimés, nous n'avions même pas d'argent pour notre propre chauffage à nous. C'était en février 2000. Et Dieu m'envoie en Afrique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a écouté et on a obéi. Obéir quand on n'a même pas nous de notre propre chauffage à nous. On a obéi, on a écouté. Et en plus dans un contexte de guerre, un contexte difficile, compliqué. On a obéi. Aujourd'hui, il y a une belle œuvre. Alors, on voit la belle œuvre. Mais il ne faut pas regarder la belle œuvre d'aujourd'hui. Il faut regarder la genèse de l'œuvre. Parce que c'est là qu'on apprend. Et chez vous, vous avez toujours une genèse de quelque part d'une œuvre de Dieu que Dieu veut faire à travers vous. Parce que vous êtes les disciples de Jésus. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes sa victoire. Vous êtes sa réussite. Vous êtes précieux. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes son corps pour faire mouvoir les dimensions du royaume, là. En Indonésie, il y a des enfants qui priaient pour les malades. Et des, hein, dans le réveil de... c'est Jaffa, je crois. Non, pas Jaffa. Je me souviens plus de l'île. Hein? Non, non. Il y a une grande île. Bon, j'ai oublié le nom. C'est ça quand on est vieux, hein. Mais des enfants, des jeunes enfants que Dieu a utilisés pour libérer la puissance du royaume de Dieu, est-ce que, par eux-mêmes, est-ce qu'ils pouvaient le faire? Non. Mais ils avaient une telle foi. Ils agissaient par leur foi. Et la foi libère les choses d'en haut pour en bas. Un gamin est capable d'avoir la foi. Et peut-être mieux que nous. Hein. Un jeune peut avoir vraiment la foi. Et moins embarrassé de tas de raisonnements et de tas de mensonges que nous, on trimballe comme des boulets au pied, quoi. Il faut que nous revenions dans cette mentalité de peuple de Dieu, où Dieu vous a dans son ordre, vous avez tout ce qu'il faut. Pas par rapport à vous, mais par rapport à lui qui est en vous. Il suffit de le croire. Il suffit d'arrêter de fonctionner, de nourrir la chair, de vous bourrer la tête ou de vos pensées de tellement de choses vaines et tellement secondaires. Remplissez-vous des choses de l'esprit. Passez du temps intime avec Dieu. Parlez-lui, ouvrez-lui votre cœur. Invitez-le à prendre toute la place. Et vous verrez que toutes les choses tellement éphémères, secondaires, ça va tomber comme un vieux vêtement. On n'a plus envie, parce qu'on découvre quelque chose de tellement au-dessus, à un autre niveau, à une autre dimension. Et c'est aussi pour vous. Ce n'est pas que pour les pasteurs en costume cravate. C'est pour vous, mes bien-aimés. Tous ceux qui croient. C'est pour vous. Ne vous arrêtez pas à l'image. Allez l'écouter. Allez l'écouter. Le problème, hein, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est la facilité de l'image. Les médias pensent pour nous, décident pour nous. Ils nous apportent tout comme sur un plateau dans notre salon quand on mange. On a les informations, on a de droite à gauche. C'est bourré de mensonges. J'ai au moins 80% de mensonges. Mais bon, c'est pas grave, on a eu les informations. Et après, on se fait des idées, on construit en fonction des mensonges qu'on a pris. Et après, du coup, on a une mentalité, on a un état d'esprit qui se développe. Je ne vais pas vous dire de jeter vos postes de télévision, mais je vais vous dire, allez, remplissez-vous du Saint-Esprit. Et ensuite, Le Saint-Esprit en vous fera le tri, va vous aider à faire le tri de ce qui est important. Votre temps est tellement précieux parce que votre temps, c'est votre vie. Votre temps, c'est votre vie. Et on arrive très vite à 70 ans. Je vous promets. Hein, les bien-aimés qui ont dépassé. Hein. Mais ils peuvent vous dire que, je suis sûr que pour eux, 20 ans, c'est pas, quand ils avaient 20 ans, c'était pas si loin que ça, en fin de compte. Hein. Quand on avait 20 ans, c'est pas si loin, on a passé 50 ans. Moi, ça fait 51 ans que je connais Jésus. J'avais 19 ans quand je l'ai connu, 51 ans. Mais ça passait comme ça. Ne vous faites pas voler, je vous en supplie. Ne vous faites pas voler votre temps. Si le diable sait voler votre temps, il vole votre vie. Et du coup, quand vous allez arriver à la fin de votre vie, qu'est-ce que vous aurez laissé comme trace des choses d'en haut? Alors que dès aujourd'hui, vous pouvez laisser des traces. Déjà entre vous, en vous aimant, comme Dieu vous a aimé. Pas l'amour guimauve, vous savez, hein, mais de l'amour d'en haut. Un amour sans condition, un pardon sans condition. Déjà, vous pouvez répandre entre vous la mentalité du royaume ensemble. Et après, si vraiment vous vivez cette mentalité de Dieu ensemble, vous allez voir, Dieu va faire germer des projets qui lui appartiennent, des choses que Dieu va mettre sur le cœur de l'un, sur le cœur de l'autre. Et les autres vont porter, vont aider, vont prier, etc. Vous allez voir comment vous pouvez être capable. Vous savez, Ifto n'est pas une grande église. Quand on voit la proportion de l'œuvre là-bas en Afrique, on a l'impression qu'il y a une très grosse église derrière. Pas du tout. On a une grande église parce qu'elle appartient à Dieu. Mais pas sur le plan numérique. Il n'y a pas besoin d'être grand pour faire de grandes choses. Il y a besoin d'être humble pour savoir qu'on ne sait pas et d'aller écouter celui qui sait. Ça, c'est le secret. C'est le secret, mes bien-aimés. Jamais tu seras plus comblé dans ta vie, dans ton cœur, que lorsque tu as reçu la pensée de Dieu et que tu auras marché, tu l'auras écouté, tu auras mis en action et tu verras le fruit. Waouh, tu vas jubiler là. C'est le plus beau des cadeaux. Que Dieu nous utilise, nous, des hommes imparfaits, pour faire une œuvre parfaite. Signé spécial Jésus. C'est du spécial Jésus, mes bien-aimés. C'est pas religieux ce que je vous dis. Je vous parle à cœur ouvert. J'ai tellement soif que vous puissiez voir que c'est capable de, vous êtes capable de réussir ici à Aubergenville, quels que soient les tsunamis qu'il y a eu, quelles que soient les tempêtes. Il faut repartir avec un regard juste, une pensée juste et une écoute affinée pour faire ce que Dieu vous demande. Une chose que Dieu veut pas, c'est que vous puissiez vous diviser. J'en parlais tout à l'heure à la Sainte-Seine, la gravité de ça. Ça, Dieu veut pas ça. Donc, pour ne pas se diviser, il faut qu'on vive par l'esprit. C'est le seul moyen. C'est qu'on écoute la parole, qu'on s'y soumette, et en l'écoutant, on va la mettre en pratique. Aujourd'hui, on sait que le peuple d'Israël était dans l'esclavage. Hein, mais la nature humaine qui cherche tout le temps une image, quelque part, les hommes deviennent comme des robots. Ils sont des robots, ils sont des marionnettes. Et ils sont un petit peu comme moi j'étais en 1968. Je me souviens, je me promenais boulevard Saint-Michel, j'étais parisien, donc je connais super. Et j'avais un trier américain, j'étais pas au Seigneur à l'époque, j'avais un trier américain avec un gros peace and love derrière le dos, hein, mes cheveux crêpés et tout, hein, les yeux maquillés, crêpés, voilà, c'était ma dégaine de ces années-là. Et j'avais marqué derrière mon dos « I am free », je suis libre. Le pire, c'est que je savais pas que j'étais ensaucissonné comme les rôtis de bœuf, vous savez. Je savais pas que j'étais lié comme un rôti, mais... Et moi, je me promenais fièrement, I am free. J'étais lié par mon péché, lié par toutes sortes de mentalités, hein, mais je ne le voyais pas. Et le pire esclavage, c'est de ne pas croire que je suis esclave. Je vous donne des pensées profonde là, pour que vous puissiez réfléchir. Le pire esclavage, c'est de penser que je ne suis pas esclave. Moi, je ne pensais pas que j'étais esclave. Si on m'avait dit à l'époque que tu as besoin de Dieu, de toute façon, vous ne l'auriez pas dit deux fois. Mais je dis, mais moi je suis très bien, je suis libre, je fais ce que je veux. Vous voyez, j'étais sincère. J'étais profondément sincère. Je pensais être libre. Je pensais que tout était bien, quoi. Jusqu'au jour que la lumière, elle vient pour éclairer tout ce qui n'est pas bien, quoi. Là, c'est là qu'on se convertit. Mais vous voyez, les gens dans le monde, ils pensent qu'ils font bien. Regardez comment ils se sont réjouis tous quand on a mis à la Constitution l'avortement à 14 semaines. Là. Et ils ont fait la fête, ils ont même fait un feu d'artifice à la Tour Eiffel. Ils pensent que c'est bien. On est dans l'évolution du monde. Ils ne pensent pas que c'est mal. Quand vous voyez un embryon de 14 jours, je dis, waouh, on a supprimé la peine de mort et là, on se réjouit d'une peine de mort d'un enfant qui ne demande que de vivre. Il n'a pas demandé de mourir. Et on se réjouit de ça. Mais vous voyez, on est dans ce monde-là. Si les chrétiens fonctionnent comme ça, bien sûr, peut-être pas dans ce domaine, mais dans d'autres domaines, mais qu'est-ce qu'on va leur apporter ? Rien. L'Église, elle n'a rien apporté si on ne vit pas quelque chose d'autre. Pourquoi Moïse, il pouvait apporter quelque chose ? Parce qu'il avait appris qu'il n'était plus rien, qu'il ne savait plus rien. Et là, dans sa marche, il a appris à dépendre de celui qui sait. Et il a appris à écouter, à agir en fonction de ce que Dieu lui demandait de faire. C'est ça la réussite de Moïse. Et c'est ça la réussite de l'Église. De développer une compassion pour ce monde. Vous savez, Dieu ne sera jamais insensible de voir un de ses enfants, peut-être tout seul dans sa chambre, chez lui, de pleurer pour ces âmes qui sont autour de nous et de demander des rencontres divines avec les uns, avec les autres. Et quand vous lui demandez ça, il le fait. Je ne sais pas si je vous ai raconté ce témoignage un jour de ce qui m'est arrivé. Je travaillais à mon bureau sur un message. Je travaillais pour Dieu. Hein. D'accord ? Et Dieu m'a dit stop. Stop ? Ouais, Seigneur, c'est pour toi. Stop. Tu vas dans le centre d'Ifto. Mais je n'avais rien à faire, moi. Je n'avais absolument rien à faire dans le centre d'Ifto. Mais il ne m'a pas dit pourquoi. Là, vous voyez, là, on est devant des choix, là. Je suis en train de faire quelque chose en plus pour Dieu. Ah, me dérange pas, c'est pour toi. Et le Saint-Esprit me dit, lâche et va au centre d'Ifto. Et quand, je sais quand c'est Dieu qui parle, bon, ben j'ai arrêté mon travail pour Dieu. Mais Dieu voulait que je fasse un autre travail avec lui, avec Dieu. Ça, c'est tout à fait différent. De faire un travail pour Dieu et de faire un travail avec Dieu. Alors j'ai obéi. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je suis allé dans le centre d'Ifto. J'arrive sur un grand parking. Oh, mes yeux se sont portés sur un homme qui était abattu. Il était tout courbé comme ça. Mais je ne voyais que lui, alors qu'il y avait d'autres personnes, mais je ne voyais que lui. Et là, je n'ai même pas demandé au Seigneur. J'étais comme un aimant porté vers lui. Cet homme voulait se suicider dans la journée. Allô ? Cet homme voulait se suicider dans la journée. Un SDF, il avait une copine qui l'avait lâché, tout ça, alcoolique et tout. Genre. Il vivait dans les cartons, dans les garages et tout ça. Il était au bout du bout du bout. Quand j'ai vu l'état de cet homme, je l'ai invité à prendre un café à l'église. On a pris un café. Et je lui ai tout simplement dit, moi je peux vous aider, mais avec toutes mes limites. Mais je sais que quelqu'un peut vous aider. Lui, il n'a pas de limites. Et je l'ai invité à faire confiance à Dieu, demander pardon pour ses péchés, et d'inviter Dieu dans sa vie. Dieu l'a délivré de 40 ans d'alcool et 40 ans de tabac. Il lui a donné tout de suite un appartement. Nous avions récupéré des meubles, on a logé tout son appartement. Il lui a redonné sa dignité. Alors on voit ça, mais ce qui est important, c'est la faculté d'écouter qui fait la différence. Est-ce que je savais qu'il y avait un homme qui allait se suicider? Non, je ne savais pas. Est-ce que Dieu le savait? Oui, il savait. Est-ce que j'étais capable d'apporter quelque chose pour changer la vie de cet homme? Non, je ne pouvais pas. Mais celui qui m'a envoyé était capable de le faire. Vous comprenez? Et c'est sur ce terrain-là que j'essaie de vous sensibiliser. Parce que vous voyez, Dieu a beaucoup délivré avec des faibles moyens dans la Bible. On le voit bien pendant la période des juges. Il a utilisé des faibles moyens. Et Dieu a même délivré un général, hein, qui était lépreux par l'intermédiaire d'une enfant. Vous voyez que c'est pas, il faut pas qu'on regarde les capacités comme le monde regarde, où il faut arriver comme Moïse tout en haut, petit-fils de Pharaon. Non, non, non. C'est le principe de Dieu, c'est de nous amener face à notre faiblesse pour que sa puissance se manifeste. C'est là que la puissance de Dieu se manifeste. N'ayez pas peur d'être vulnérable. N'ayez pas peur de pas avoir les capacités ou pas avoir suffisamment tout ce qui vous manque. Vous regardez tout ce qui vous manque. Ne regardez pas ça. Regardez ce que vous avez. Et ce que vous avez, c'est Christ. Ce que vous avez la dimension du royaume en vous. Regardez ce que vous avez. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas. Regardez que vous avez en Christ. Vous avez tout l'absolu de Dieu. Vous avez tout pleinement en lui. Regardez ce que vous avez à travers le regard de Christ, à travers sa personne. Ne regardez pas tout ce qui vous manque. Il vous manquera toujours quelque chose qui vous arrêtera sur la vie. Ne regardez pas l'image. Regardez à la personne. À la personne de Jésus. Comme je vous disais tout à l'heure, le pire esclavage, c'est de savoir, penser qu'on n'est pas esclave. Mais le péché nous rend esclaves. Les fonctionnements de la chair nous rendent esclaves. La connaissance, l'intelligence humaine nous rend esclaves. Elle est incapable de comprendre les choses de l'esprit. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Notre intelligence nous rend absolument esclaves de nous-mêmes. Nous avons besoin d'être baptisés et remplis du Saint-Esprit. Plusieurs fois, la parole de Dieu nous dit, il est rempli du Saint-Esprit, même après la Pentecôte. Il n'y a pas eu qu'un déversement de l'esprit le jour de la Pentecôte. Il y a eu même après. Demandez, cherchez le Saint-Esprit. Cherchez, invitez-le à prendre toute la place. Parce que votre intelligence sera votre esclavage. Vous allez voir mon bras droit, Jérémie, qui va venir prêcher là. C'est vraiment un homme de Dieu, hein. Mais le début de sa formation, il va avoir 50 ans, là, au mois d'août, là. Moi, j'ai connu à 17, 18 ans. Hein. Mais au début, c'est un intellectuel. Au début, le grand combat pour sa formation, c'était son intellectualisme qui était tout le temps en avant. Et croyez-moi, sa formation était difficile, il a fallu que Dieu touche, il a fallu que Dieu brise. J'ai rien contre l'intelligence et les capacités et les diplômes, j'ai rien contre ça. Mais c'est surtout pas ça qui doit diriger nos vies. Vous comprenez? Ça doit être à la disposition du Saint-Esprit. C'est pas pareil. Il faut mettre les choses à leur place. La locomotive qui tire le train de ma vie doit être le Saint-Esprit. Mais si je mets mon intelligence, mes capacités humaines en avant, le Saint-Esprit, il est juste un simple wagon qui suit la locomotive. Comprenez l'image? J'essaie de vous mettre sur des rails, des bons rails, parce que j'ai tellement soif que vous réussissiez. J'ai tellement soif que vous puissiez voir les promesses qui vous ont été données et rappeler aussi par notre frère Nelson, hein, prophétiquement, oui, si Dieu a dit, il va faire. Mais c'est pour ça qu'il y a des combats, il y a des luttes, parce que l'ennemi ne veut pas que ça se fasse. Les promesses du passé, l'ennemi ne veut pas, surtout pas que ça se passe. Parce qu'il sait, si ça se passe, que c'est sa perte à lui. Le royaume des ténèbres va être obligé de reculer. Les ténèbres vont être obligées de reculer. Quand vous allez vous lever et avancer, comment ont fait les apôtres? Est-ce qu'ils étaient plus capables que vous, les apôtres? Même Pierre, avec ses bons sentiments, il a véhiculé des pensées ténébreuses. Jésus a dû lui dire « Arrière de moi, Satan !» Même Pierre, voyez ? Vous voyez que c'est des hommes comme vous et comme moi qui ont commis toutes sortes d'erreurs, toutes sortes d'échecs. Qu'est-ce qui a fait la différence ? C'est la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Ils ont été revêtus du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et après, et encore après, et encore après. C'est ça qui a fait la différence. Dieu les a rendus capables de demander à un paralytique. On n'a rien. Là, on se reconnaît bien, vous voyez, on a les poches vides. Mais regarde-moi. Est-ce qu'on peut dire au monde, regarde-moi ? Est-ce que tu peux dire aux gens du monde, regarde ma vie ? Regarde ma vie. Parce que c'est ça que Pierre dit. Regarde-moi. Est-ce que nous pouvons dire aux gens du monde, regarde-moi ? Regarde ma vie. Est-ce que ma vie est un livre ouvert ? Que les gens peuvent lire l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la patience de Dieu, les plans de Dieu dans ma vie, les exaucements de prière dans ma vie. Est-ce que les gens peuvent lire ça? Sinon, on va faire de la petite religion évangélique. On va faire une petite soupe, on va être content parce que il va y avoir les services d'entretien. Mais bien aimé, il y a autre chose à un autre niveau. Il y a autre chose et c'est pour chacun, même pour les enfants. Comment c'est ton prénom ? Hugo. Même pour toi, Hugo. Ne mets jamais en doute que Dieu est capable de te rendre capable pour accomplir ses plans. Ne doute jamais de ça. Ok ? Ne doute jamais de ça. Et toi aussi, comment tu t'appelles, toi ? Théophile ? Théo. Oh ben, en plus, on n'avait qu'un nom comme ça. Tu ne peux pas ne pas avoir Dieu en toi. Hein? Mais toi aussi, mais pas en doute. Les jeunes sont tellement dévalorisés. On est tout le temps, les vieux sont tout le temps en train de critiquer les jeunes. Ça va pas, je fais... Il y a toujours... Non, il faut, nous sommes là pour vous valoriser, les enfants. Ou les jeunes. Vous êtes précieux. Et Dieu peut utiliser. Il y a tellement de jeunes, toi, je sais pas quel âge que tu as, mais tellement de jeunes, même dans ton âge, qui veulent se suicider. Regardez maintenant, presque tous les jours, il y a des meurtres. Si vous avez les mêmes informations que moi, toi, tu peux être utilisé pour empêcher ça. Apporter le royaume de Dieu là, au lycée, à l'école. Apporter une autre dimension, un autre regard, un autre cœur, une autre pensée. Même à ton âge. T'es d'accord, André ? Il faut que vous puissiez le croire, le recevoir. Il faut que vous sachiez qui vous êtes. Vous avez reçu Christ qui vous a donné, écoutez bien, le pouvoir d'être enfant de Dieu. Jean 1,12. Le pouvoir, c'est un pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il nous place au-dessus du monde des ténèbres. Et il vous assoit avec lui dans les lieux célestes. Vous êtes au-dessus de tous ces puissances des ténèbres qui gèrent ce monde. Et c'est important que vous puissiez vous regarder comme ça. Dire que même s'il y a plein de faiblesses en nous, tout ça, mais laisse ça de côté. Regarde la force en Christ. Avance avec cette force en Christ. Demande à Dieu qu'il utilise ta vie pour semer là, mettre une semence de vie là, là, là. Et un jour, tu récolteras peut-être ce que quelqu'un a semé dans un autre. Mais que ta vie, elle serve pour les dimensions du royaume. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vois le temps qui passe. Je voudrais simplement vous exhorter de rester dans la pensée déjà du ensemble, comme je vous ai fait vous regrouper ensemble. Ne laissez rien qui vous sépare les uns par rapport aux autres. Deuxièmement, c'est important que vous puissiez comprendre que Dieu parle. Il veut nous conduire sur l'écoute de sa voix par la puissance du Saint-Esprit. Troisième chose, que vous puissiez avancer dans ce que vous écoutez. Et vous verrez aussi la gloire de Dieu vous utiliser. Ça, je ne mets pas du tout en doute ça. Arrêtez d'essayer de vous focaliser sur l'image, sur les sens. L'image nous manipule, l'image nous trompe. Hein, mais l'image ne retransmettra jamais ce que la voix de Dieu peut nous transmettre de cœur à cœur. Que vraiment votre vie soit déposée sur l'autel, comme nous dit l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 1-2, de mettre nos vies sur l'autel comme un sacrifice vivant pour le Seigneur. Mettez vos vies sur l'autel ce matin. Amen.
Amen.
Je te remercie, Seigneur, d'avoir retransmis ce cœur à cœur avec mes bien-aimés. Je sais que chacun, chacune sont tellement précieux, quels que soient leurs échecs, quels que soient leurs péchés, quel que soit ce qu'ils sont ou ce qu'ils ne sont pas. Et je proclame combien ils sont précieux pour toi. Ils sont tellement précieux que tu as payé ce prix cher. Quand tu es venu, tu as tout donné pour chacun, sans limite, jusqu'à la mort de la croix. Voilà leur prix, voilà leur valeur, voilà leur estime. Seigneur, tu les as placés comme enfants de Dieu dans ce monde des ténèbres qui nous entoure, dans ce monde de mensonges, de tromperies, de drames, de malédictions. Seigneur, qu'ils soient porteurs de bénédictions maintenant. Qu'ils sachent qu'ils peuvent libérer la bénédiction. Qu'ils aient du temps, Seigneur, d'écoute, d'intimité, Seigneur, avec toi. Qu'ils apprennent non seulement à entendre ta voix, mais à écouter ta voix, en obéissant à ta voix pour qu'ils voient le fruit et que tu les as rendus capables d'avoir une vie qui porte du fruit. Je te les remets, je te les confie de tout mon cœur, Père. Que ta grâce, que ta bénédiction repose sur eux, dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, moi je suis heureux que vous partagiez la Sainte Cène, puisque dans Actes 2, 42, ça fait partie de la persévérance. Ces quatre persévérances fondamentales de notre vie. Si vous voulez une vie chrétienne bien équilibrée, relisez Actes 2 et passez de d'entendre à l'écoute. Heureux si vous savez ces choses pourvu que vous les pratiquiez. Persévérance dans l'enseignement des apôtres, persévérance dans la koinonia ensemble, persévérance dans la Sainte Cène et persévérance dans la prière qui boucle le tout. Ça, ces quatre persévérances, vous devez les retrouver tous dans votre vie. On y va ? Alors, par rapport à la Sainte Cène, moi j'aimerais justement, ça va dans le sens de ce que je vous ai partagé là ce matin sur le sérieux de l'œuvre de Dieu. Et le sérieux de la Sainte Cène. Pourquoi Dieu, il a demandé de persévérer dans la Sainte Cène? On pourrait dire, bon, ça va, une fois de temps en temps, souvent les raisonnements, il ne faut surtout pas qu'on en prenne l'habitude, parce qu'on fait ça traditionnellement. Vous avez déjà entendu ce raisonnement-là. Il ne faut pas faire trop, parce que ça devient une habitude, mais vous savez, qu'on prenne tous les dimanches, tous les jours, tous les mois, ou tous les 6 mois, ou tous les ans, ça peut devenir la même habitude. C'est pas dans le temps, c'est pas le temps qui crée l'habitude ou pas, c'est l'état d'esprit. Quel état d'esprit je prends la Sainte Cène? Pourquoi Dieu nous a mis la Sainte Cène dans ces quatre persévérances comme des socles de l'Église, pour que l'Église elle soit bien stable? Parce que, je vais vous lire, quand Dieu nous demande que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, 1 Corinthiens 11. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même. Et écoutez le verset 30. Nous sommes dans une période, nous ne sommes pas dans la loi de l'Ancien Testament, nous sommes bien dans la grâce. Mais malgré que nous soyons dans la grâce, écoutez comment c'est grave de ne pas discerner le corps du Seigneur au sein de la Sainte Cène. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et même qu'un grand nom sont morts. Ça vous a jamais choqué, ça? C'est choquant, hein? Parce que Dieu, normalement, il nous appelle à guérir les malades, non? Et même à ressusciter les morts. Mais là, on voit l'inverse, là. Et il faut qu'on s'arrête. Pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi il y a des conséquences si graves? Et moi, pendant des années, j'ai mal compris ce que ça voulait dire, discerner le corps du Seigneur. Je me focalisais sur le corps physique du Seigneur, vous savez. Je me focalisais sur son corps. Hein, tout son corps a servi le Père. Tout son corps a été battu, mis sur la croix. Je me focalisais sur ça, sur tout ça. Mais face à un texte comme ça, je n'étais pas satisfait. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me fasses voir, révèle-moi. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et j'ai prié longtemps. Hein. Dieu n'a pas révélé tout de suite. Et un jour, vous savez, une révélation, c'est comme tout d'un coup, le voile, les volets s'ouvrent. Tout d'un coup, ah, Eureka! Ah! Et c'est ce qui s'est passé. Et je vais vous partager tout simplement. Et sur le principe de l'harmonétique, vous savez, la Bible explique la Bible. Et quand on s'arrête, le corps du Seigneur, mais le corps du Seigneur, ce n'est pas que le corps physique du Seigneur. Vous êtes la Bible dit que vous êtes le corps du Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Et quand on commence à réfléchir au corps du Seigneur au niveau de l'Église, alors là, ça prend une autre tournure. Parce que prendre la Sainte Cène sans discerner le corps du Seigneur, c'est comme si j'avais un conflit avec André. J'en ai pas, hein. Merci Seigneur. C'est passé avec d'autres. Hein. J'ai aucun conflit loin de là, mais c'est un exemple. Si j'ai un conflit avec André et que je fais fi de ça et que je prends la Sainte Cène à la légère, alors j'ai beau me concentrer sur le corps du Seigneur physique. Mais André, il est aussi le corps du Seigneur. Et si je prends la Sainte Cène sans gérer ce conflit-là, je suis en opposition directe avec ce que Jésus a fait à la croix, où il a donné son corps pour se former un corps. C'est-à-dire, c'est comme si j'acceptais que le corps soit disloqué. C'est pour ça que c'est très grave, les divisions, les conflits non réglés, les non-pardons, c'est absolument grave, parce que c'est une offense à la croix. Et c'est pour ça que la Sainte Cène, Dieu nous a demandé de la prendre régulièrement, mais quand je la prends avec cette perspective, je arrête sur image, je vais examiner mon corps, examiner mon cœur. Seigneur, moi aussi, je suis ton corps, mais mon frère, ma sœur, est aussi ton corps. Est-ce qu'il y a une ombre entre mon cœur et leur cœur? Et la Bible nous répond, si tu as un conflit, avant d'apporter ton offrande à l'autel, là, ben tu vas trouver ton frère, ta sœur. Tu vas régler la situation. Et pas simplement en disant pardon, pardon, pardon. Mais je vais libérer le même pardon que Dieu m'a attribué pour moi. Un pardon où Dieu, il efface. Et le pardon divin, il efface. Le pardon humain, ah, je te pardonne, mais j'oublie pas. Ça, c'est humain. Les gens du monde sont capables de pardonner comme ça. Mais les gens du monde ne sont pas capables de pardonner avec le pardon divin. Où j'efface. Pourquoi je peux effacer? Parce que quel que soit le conflit, le dossier, je le remets entre les mains de mon Père. Ça ne m'appartient plus. J'ai pardonné, c'est fini. Ça appartient à Dieu. C'est lui le juste juge devant toute situation. Mais moi, je reste à choisir d'aimer mon frère, d'aimer ma sœur. Je choisis de bénir, je choisis de me donner. Je choisis d'être, de bien articuler comme un membre du corps qui fonctionne parce que Dieu, il a besoin de ce corps pour le monde. Vous comprenez l'importance, quand on prend la Sainte Cène, de discerner le corps du Seigneur. Si l'Église était scrupuleuse à bien discerner le corps du Seigneur, elle ferait attention quand elle prend le pain et le vin. Elle examinerait son cœur. Où j'en suis avec mon frère, avec ma sœur? Est-ce que je peux régler un conflit? Est-ce qu'on peut en parler? ou si ce n'est pas possible d'en parler, on peut aussi prendre une position de libérer totalement le pardon, d'avoir aucune rancœur, rien. C'est pour ça que c'est tellement scandaleux quand on agit à la légère dans une église. C'est scandaleux, c'est grave. C'est suffisamment grave pour que dans l'église de Corinthe, qui était remplie des 9 dons du Saint-Esprit, il manifestait tous les dons du Saint-Esprit. Mais malgré ça, il y avait des choses très légères. Il y avait des gens qui étaient infirmes, malades, qui mouraient, simplement à cause de ça. C'est grave de disloquer le corps du Seigneur. Et moi, je prie beaucoup pour les gens qui sont des outils de division. Je prie et je dis, Seigneur, arrête-les un jour ou l'autre, parce que il y a des conséquences qui sont graves. Okay.